Alors, pour ce soir, je vous propose un enseignement sur Jézabel, et puis on verra jusqu'où ça nous conduit. On regarde un peu le temps aussi qui va s'écouler. Et puis, Jézabel, en fait, vous verrez, on va parler en fait d'une puissance spirituelle. Et puis, si vous êtes déjà intéressé au combat spirituel, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on le veuille ou non, on est tous dans un combat spirituel, je pense que ça vous l'avez remarqué. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette puissance qu'est Jézabel. Et si c'est le cas, peut-être ça va vous permettre de rafraîchir votre mémoire. Ou si c'est pas le cas, ça va peut-être vous donner une corde de plus à votre arc, je l'espère. Parfois, on réalise même pas qu'on est dans un combat spirituel et parfois, on ne réalise même pas par où nous attaque l'ennemi. Mais si on sait où se situe l'ennemi, si on sait où se situe notre champ de combat, alors on aura peut-être aussi plus de facilité à avoir la victoire. Bien sûr que la victoire a été complètement accomplie à la croix de Golgotha. C'est pas par nos mérites que on va y gagner quelque chose. Mais on a besoin de connaître quand même la stratégie du Seigneur pour être fortifié dans la foi et puis pour que l'ennemi puisse aussi reculer afin que nous retrouvions aussi notre liberté en Jésus-Christ. Alors un premier texte, c'est dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens 6. Vous verrez qu'on va avoir pas mal de versets qui nous sont connus. Donc, le premier passage, Éphésiens 6, je vais lire les versets 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, pardon, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, nous sommes dans une lutte en tant que chrétiens, contre les puissances spirituelles, contre les esprits méchants, contre les princes de ce monde des ténèbres. Nous sommes dans une lutte spirituelle et nous y sommes tous engagés en tant qu'enfants de Dieu. Et Jézabel, vous verrez, c'est en fait le nom d'un esprit qui nous est cité dans le Nouveau Testament. Et je pense que c'est important de connaître cet esprit-là parce que c'est un esprit qui est à l'œuvre dans les églises, c'est ce qu'il faut savoir, hein. C'est un esprit qui est à l'œuvre spécifiquement dans les églises. Donc c'est à nous de le connaître et à nous aussi de le discerner afin qu'on ne se laisse pas manipuler par cet esprit-là. Et c'est un esprit, plus le temps va avancer, plus on va s'approcher du retour du Seigneur. Et puis avant le retour du Seigneur, l'apostasie va aller en grandissant, nous dit la Bible. Et donc cet esprit-là va être vraiment de plus en plus aussi en action dans les églises, il va chercher à séduire le plus de chrétiens possible. Alors, qu'est-ce que l'esprit de Jézabel? C'est un esprit religieux, c'est un esprit d'idolatrie, c'est-à-dire que ça vous détourne la véritable adoration de Dieu, ça vous conduit dans une fausse compréhension de qui est Dieu. C'est un esprit de contrôle, on verra, c'est un esprit d'intimidation, c'est un esprit de découragement aussi, ça peut être un esprit de persécution. Et c'est un esprit qui va chercher à conduire le chrétien loin de son Seigneur. Et on va étudier en deux étapes ce qu'est cet esprit-là, qu'en est-il de cet esprit-là. En prenant au début, pour la première partie, un texte principalement dans le Nouveau Testament. Et puis pour la deuxième partie, en prenant cette fois des textes dans l'Ancien Testament. Alors le texte principal dans le Nouveau Testament, pour comprendre qui est Jézabel et qui est cité véritablement sous le nom de Jézabel, se trouve dans l'Apocalypse 2. Et puis on va lire tout le passage concernant l'église de Thyatire, c'est-à-dire Apocalypse 2, 18 à 29. Apocalypse 2, à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous tous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, cette église de Thyatire, on voit qu'elle est très bien vue par le Seigneur. Hein. Il y a des paroles vraiment super encourageantes. Hein. Jésus connaît ses œuvres au verset 19. Il connaît son amour, il connaît sa foi, son fidèle service, sa constance. Quelle église, hein? Une église avec la constance. Et une église où les dernières œuvres que cette église a vécues sont plus nombreuses que les premières. Ça montre vraiment que c'est une église qui est pleine de passion pour Jésus. Mais pourtant, Jésus voit un problème dans cette église. Et quel est ce problème? C'est justement Jézabel, on y arrive. Hein? Verset 20. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Donc cette femme Jézabel, il faut vraiment comprendre ça dans un sens symbolique. Hein. Si vous imaginez une femme avec qui va séduire les serviteurs de Dieu avec des beaux cheveux, un beau sourire, un parfum magnifique, non, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment à comprendre dans un sens spirituel. Cette femme Jézabel, en fait, est un esprit. C'est un esprit de séduction. Et cet esprit de séduction travaille comment? Par des enseignements, hein, et des prophéties. Cet esprit se dit prophète et cet esprit enseigne, en fait, au travers de la parole de Dieu, mais pour séduire les enfants du Seigneur et les conduire sur un mauvais chemin. Pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, se livrer à l'impudicité, ici, le terme grec, c'est porneo. Et ce terme-là veut parler, en effet, de l'immoralité sexuelle, de toute relation en dehors du contrat du mariage, mais il faut aussi comprendre dans un sens symbolique ce terme-là, parce que l'Apocalypse de Jean s'est rempli justement de symboles, et faire une interprétation ou en cherchant à comprendre ces symboles, c'est pas une fausse interprétation, bien au contraire. Et ce mot a un sens symbolique justement, c'est quoi? C'est adorer les idoles ou permettre à un autre de nous conduire à adorer des idoles. Hein. Donc ça, c'est un sens symbolique de porneo, c'est-à-dire conduire à l'idolâtrie. Et d'ailleurs, ça va bien avec ce qui suit là, et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Donc c'est un esprit qui va détourner le chrétien de la véritable adoration du Seigneur. Et je me rappelle d'un pasteur tzigane qui disait, mais combien l'ennemi cherche à détourner les chrétiens de la véritable adoration. C'est ce que le diable fait. Parce que s'il peut te détourner, s'il peut te conduire dans une fausse adoration, que tu vas vénérer un esprit au lieu de vénérer le Seigneur, eh ben quelque part, il a gagné une grande partie du combat. Parce que ça veut dire que tu vas croire que tu dépends de Dieu, mais en fait, tu dépends d'un esprit. Et tu vas te soumettre à un esprit et tu vas tourner ton adoration, tu vas tourner ton expérience dans une certaine direction au lieu de te tourner vers le Seigneur. Donc, attention, parce que cette puissance est séduisante et si on la connaît pas, on risque de tomber dans ses griffes. Hein. Tu as laissé cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Donc, il y a vraiment une œuvre de séduction. Quand quelqu'un vient et qui est rempli par cet esprit-là, il va vous apporter un enseignement dans un premier abord qui sera très séduisant. Hein, il ne va pas vous amener un truc, vous dire, si vous êtes un chrétien engagé, oui, le yoga, c'est fun, vas-y avec le yoga. Hein? Non. Si l'esprit de Jézabel, qui est peut-être sur un enseignant, il a connaissance, l'esprit a connaissance de ce qui se passe dans une église et il va toujours se mettre un peu au niveau de l'église pour la rejoindre, puis après l'amener sur un faux chemin. Donc il ne faut pas s'attendre forcément au début à un enseignement complètement faux. Mais avec le temps, si on est sensible, tout d'un coup on va se dire « Ah, mais là, il y a quelque chose dans l'enseignement qui ne tient pas, qui tient pas la route. Hein. » Et puis on va voir au fur et à mesure un peu les caractéristiques de cet esprit-là pour qu'on puisse mieux le discerner. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il est à l'œuvre. Et dans les temps futurs, il le sera de plus en plus. Alors, on verra des caractéristiques de Jézabel par rapport à l'Ancien Testament. Ça, ce sera la deuxième partie. Parce qu'en fait, Jézabel, c'était une femme qui avait marié un roi d'Israël. Et c'est pas pour rien que Jésus a donné à cet esprit le nom de Jézabel. Vous verrez les caractéristiques de cette femme et les caractéristiques du type d'adoration que cette femme a amené en Israël. C'est révélateur de beaucoup de choses par rapport à cet esprit. Hein. Mais en attendant de passer à cette deuxième partie, on reste toujours dans le Nouveau Testament, toujours dans ce passage de l'Apocalypse de Jean, parce qu'il y a quelques pistes de réflexion qui peuvent nous être utiles. Au verset 24, « À vous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. » Et je lis encore le verset 25, « Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Donc, il y a des gens dans cette église qui ne se sont pas laissés séduire par cet enseignement, ils ne l'ont pas reçu. Et puis, on voit qu'il y a des gens qui disaient qu'ils ont connu les profondeurs de Satan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, moi, je n'ai pas forcément une explication finale sur le sujet, mais on peut s'imaginer que peut-être il y avait des gens qui enseignaient un enseignement, un peu un surenseignement. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tout d'un coup, vous croisez quelqu'un qui arrive avec un enseignement, puis vous dites, oh là là, mais c'est incroyable cet homme, quelle connaissance. Enfin, il me conduit là où j'ai jamais pu aller. Il a touché quelque chose de particulier du Seigneur. Et puis, il y a vraiment un peu comme une œuvre de séduction, mais si tu n'écoutes pas son enseignement, tu ne vas pas réussir à rentrer dans les choses que lui, il a connues et qu'il vit aujourd'hui. Tu ne vas pas réussir à rentrer dans l'onction, là où il se trouve tellement proche du Seigneur. Alors, c'est peut-être un peu ça. Hein? Peut-être là, il fallait connaître les profondeurs de Satan, il fallait connaître combien le diable agissait ou je ne sais pas quoi. C'est vrai que si on va trop loin dans le combat spirituel, des fois, on se perd aussi. On peut aussi un peu penser à ça. Moi, je n'ai pas forcément une interprétation fixe sur ce passage-là. Mais en tout cas, c'était une doctrine, je pense, qui devait être amenée par des soi-disant pseudo-super enseignants. Et puis que si on n'avait pas ces super enseignements, ben, on n'arrivait pas à grandir dans l'onction du Saint-Esprit. Seulement ce que vous avez, retenez-le juste à ce que je vienne. Hein. Ce que vous avez. Donc, retenons ce que Dieu nous a déjà donné. C'est important. Et puis, ne nous laissons pas prendre justement ce que Dieu nous a donné. Et puis, ces enseignants, c'est comme justement si eux, ils ont tellement plus que nous. Puis Jésus me dit, non, retiens ce que toi tu as, parce que ce que tu as, c'est précieux. Parce que je t'ai enseigné les bases de la foi. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Hein? Et l'onction du Saint-Esprit dépend de notre communion avec le Seigneur, notre communion personnelle. L'onction du Saint-Esprit dans nos vies dépend de notre vie de prière aussi. Et puis, je ne suis pas, en disant cela, opposé à ce qu'un orateur propose la prière et puis qu'on ait demandé la prière. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose en soi. Mais discernons si la personne est vraiment remplie du Saint-Esprit ou bien si c'est un autre esprit. Parce que si la personne prie pour vous, impose les mains sur vous, puis elle est remplie d'un esprit qui est un esprit religieux, j'ai quand même envie de vous dire, gare à vous. Parce que cet esprit-là, il peut venir sur vous et puis il peut commencer à vous séduire. Hein? Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on serait comme ça, comme miraculeusement, à l'abri des séductions du diable. Parce que le diable, il ne faut pas le sous-estimer, il est rusé. On ne doit pas en avoir peur, mais il est rusé. Et il est terriblement rusé. Hein? Il peut s'habiller en ange de lumière. Vous connaissez ce passage, je pense. Donc, que Dieu nous aide et qu'on ne se laisse pas non plus berner peut-être par le premier orateur qui arrive, qui a tant de prophéties, qui a tant d'enseignements tellement magnifiques, tellement merveilleux. Et Jésus dit, ne te laisse pas dérober ce que tu as. Hein? Ce que je t'ai partagé, ce que je t'ai apporté, c'est les bases de la foi. Garde ces choses-là près de ton cœur. Garde ta vie en Jésus-Christ. Ces enseignants vont vous faire croire qu'il vous manque quelque chose et quelque chose que justement eux ont. Donc, ils vont créer comme un peu une dépendance. Hein. Vous devez être en connexion régulière avec ces enseignants pour garder un peu ce feu. Et Jésus nous dit qui ne va pas mettre sur nous d'autres fardeaux. La fin du verset 24. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Et quel fardeau? La mort à nous-mêmes. Hein? Que pour suivre Jésus-Christ, il faut porter sa croix, c'est-à-dire renoncer à soi-même. Jésus ne met pas d'autres fardeaux. C'est vraiment la base de la foi. Si on veut grandir en Christ, si on veut rester en Christ, il faut mourir à nous-mêmes. Et c'est un joli combat, hein, ça, jour après jour, de rester dans l'obéissance, si on a trébuché, de revenir à Jésus. Pourquoi on a la Sainte Cène? C'est bien parce qu'on n'est pas parfait. Hein. Jésus, il a dit, faites ceci juste à ce que je revienne. On a besoin de revenir souvent à la croix, on a besoin souvent de redéposer nos vies à la croix. Et quand on fait ça, il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que l'Esprit Saint, il va être en communion avec nous. Le jour où on a donné notre vie à Jésus, on est en communion avec le Saint-Esprit, on a senti la présence de Dieu. J'espère que vous l'avez senti, que vous avez senti qu'il y a quelque chose qui vibrait dans votre cœur, qu'il y a peut-être des pleurs qui sont arrivés, parce que le Saint-Esprit nous conduit aussi dans la guérison, mais qu'ensuite, il y a eu la joie, il y a eu la paix, il y a eu une espérance nouvelle. Je me rappelle d'une dame qui témoignait qu'elle était une profonde dépressive, il n'y avait pas de solution. Elle avait été écoutée, un pasteur, j'ai oublié son nom, mais fameux à l'époque, qui était venu à Yverdon. Et puis, le lendemain, quand elle avait ouvert les fenêtres de sa maison, c'était comme s'il y avait le soleil qui était entré dans sa maison. L'air était de nouveau respirable, elle se sentait vivre. Hein. Alors, bien sûr que des fois, on doit passer aussi par un long processus de guérison. Il y a plein de chemins différents. Mais quand même, il y a quelque chose qui se passe quand on a donné notre vie au Seigneur. Donc, Jésus nous dit, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau que celui de la croix. Bon, c'est déjà un joli fardeau. Hein. Mais renoncer à soi-même afin que Christ puisse vivre en nous. Et il y a une promesse aussi à celui, verset 26, qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. C'est Jésus qui est l'étoile du matin. Donc, il partagera son héritage avec nous. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et cette promesse-là, c'est pour le millénium, en fait. Hein. C'est pour le temps où Jésus régnera sur cette terre. Il pètera avec une verge de fer. C'est fou, il dit ça, de celui qui persévérera, hein, de celui qui gardera jusqu'à la fin l'enseignement du Seigneur. Il lui donnera autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer comme, les brise, comme on brise les vases d'argile. C'est un don que Jésus a reçu du Père et il le partagera avec chacun d'entre nous. Amen. C'est extraordinaire. Et ces enseignants, justement, ils vont vous faire perdre de vue le royaume de Dieu à venir. Ou alors, ils vont vous enseigner, mais la confusion par rapport au royaume de Dieu, comme si c'était déjà là, comme si eux, ils sont tellement dans une onction type apostolique, super apostolique, ou bishop des bishops, ou je ne sais pas quoi encore, hein, que grâce à l'onction qui les suit, que dès qu'ils ils approchent de vous, vous partez hein, trois toupies en l'air et bien plus, si bonne entente, souvent, ils vont vous amener dans la confusion par rapport au royaume de Dieu à venir. Il y a des promesses par rapport au royaume de Dieu à venir. On est dans cette attente-là. Et pour l'instant, on est dans le temps de la grâce. Et on doit se satisfaire aussi. Bon, c'est déjà énorme, hein, mais se satisfaire de la grâce. On n'est pas encore en train de régner aujourd'hui sur les nations. On n'est pas en train de les briser avec une verge de fer. Hein. On n'en est pas là. Mais un jour, Jésus va régner sur cette terre. Et là, les choses vont changer. Gloire à lui. Alors, deuxième étape. Ça va, vous tenez? Ça va? Alors, on va parler justement, cette fois dans l'Ancien Testament, de cette fameuse femme Jézabel, parce qu'elle tire son nom de quelque part. Hein. Jésus a tiré ce nom de quelque part en prenant exemple d'une femme, en fait, qui était une reine qu'un roi d'Israël a épousée. Alors, c'est dans 1 Roi 16... Un roi 16, c'est après Samuel, les rois, c'est avant Chronique. Un roi 16, et là je lis les versets 31 à 33. Et il est parlé d'Achab, de ce roi d'Israël. Verset 31. Et comme si c'eût été peu pour lui, peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nebat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Etbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qui bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors voilà un roi qui n'est pas fameux hein, et qui va se marier à une femme qui est encore moins fameuse, Jézabel, qui venait en fait de Tyr, d'après ce que j'avais regardé, si c'est juste. Donc qui était vraiment complètement païenne et qui était liée à l'idolâtrie de Baal et d'Astarté. C'était une femme qui était dans ce culte-là. Et puis, elle va conduire son mari et Israël aussi à l'adoration de Baal. Il va bâtir un autel à Samarie. Et le verset 33 nous dit, il va construire aussi une idole d'Astarté. Alors, cette femme, elle va prendre vraiment le pouvoir sur le roi. Et puis, elle va conduire dans une idolâtrie. Mais certainement, les gens, ils ne pensaient pas qu'ils étaient dans l'idolâtrie. Pour eux, c'était acceptable. C'était acceptable, la forme de culte qu'ils avaient. C'était quelque chose même peut-être révolutionnaire. Enfin, le judaïsme progressait dans sa foi et puis arrivait à s'épanouir au contact d'autres religions. Je pense qu'il y avait ce genre de discours. Hein. On l'entend aujourd'hui dans la société, un discours très interreligieux aussi. Hein. Toutes les religions sont égales, toutes mènent au même endroit. Ben non, toutes mènent pas au même endroit, malheureusement. Hein. C'est un mensonge de l'ennemi. Alors, on va voir un peu ces divinités Baal et puis Astarté. Qui étaient ces divinités? Baal, c'était le maître de la foudre, c'était le chevaucheur des nuées. Et Baal avait plusieurs noms. Le premier nom, Baal Tsephon, c'est le dieu, Baal Tsephon, c'est le dieu du nord. Et puis, avec ces noms-là, on va voir un peu les caractéristiques de Jézabel. Hein. parce qu'elle, elle vénérait ces dieux-là, donc elle avait ces caractéristiques en elle aussi. Mais on comprend, on se rappelle, hein, surtout l'enseignement de Jésus, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme qui s'appelle Jézabel séduire mes serviteurs. Hein. Donc on se rappelle que simplement au travers de l'Ancien Testament, on voit des caractéristiques de cet esprit-là. Donc, une des premières caractéristiques en lien avec son nom, Baal-Tsephon, le dieu du Nord. C'est l'esprit qui veut donner une direction à ta vie, qui veut la contrôler. En Exode 14, verset 2, on retrouve ce nom, Baal-Tsephon, de cette divinité. Et c'est à quel moment? C'est au moment, en fait, où le peuple d'Israël sort d'Égypte. Et le premier campement qu'ils vont faire, c'est un faste de Baal-Tsephon. Et c'est là que le cœur du pharaon va être endurci, et puis il va partir à la chasse d'Israël. Et puis on connaît, hein, Israël va traverser la mer des gens, et Dieu va délivrer son peuple. C'est comme un symbole du baptême, en fait, cette traversée-là. Pharaon, c'est comme un symbole du diable. Et puis on voit que c'est comme au travers de ce baptême-là que nous aussi, pour nos vies, on a été libérés de la vie d'esclaves du péché. Hein. On était sous l'emprise du pharaon, entre guillemets, hein, de Satan. Et puis grâce au baptême, on a été libérés. Jusqu'à Baal-Tsephon, le peuple était conduit par le pharaon, était sous l'autorité du pharaon. Mais là, ben, ça va en être terminé grâce à l'eau, hein, grâce à cette traversée de la mer Rouge, de la mer des gens. Et puis, c'en est la même chose pour nos vies. Parce qu'on est venu à Jésus-Christ, parce qu'on a passé par le baptême aussi, c'est comme si on laisse l'ennemi derrière nous. Bien sûr, on est conscient que le combat reste, mais on ne veut pas se remettre sous l'autorité du diable. Donc cette puissance-là, elle nous égare loin de l'héritage qu'on est appelé à recevoir en Jésus-Christ. Elle va nous donner des mauvaises directions, parce que si quelqu'un prophétise au nom de Jézabel, il peut te donner des prophéties magnifiques, hein, et hyper précises. Ainsi parle le Seigneur, je vois sur ta vie. Que je dis tout ceci, je ne suis pas contre les prophéties, bien au contraire. Hein. Paul, il disait, aspirez aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie. Mais l'ennemi, il fait les mêmes choses que Dieu pour nous mettre justement dans la confusion. Hein. Mais nous, on doit pouvoir discerner avec l'aide du Saint-Esprit ces esprits-là, de façon à ce qu'on ne se laisse pas séduire par ces fausses prophéties. Donc un prophète qui vient, c'est un chrétien souvent, hein, c'est un chrétien sincère souvent, il va même pas réaliser il va prophétiser avec un faux esprit. Il va pas réaliser souvent, parce qu'autrement je pense qu'il se tairait. Mais il peut te donner une prophétie hyper précise. Ainsi parle le Seigneur, il y a 25 ans, tu as fait alliance avec moi dans un domaine très précis. Maintenant, c'est l'heure, lève-toi, n'écoute plus ton pasteur. Hein, je donne un exemple comme ça, mais il y a certainement déjà eu ce genre de prophétie. Puis on voit que tout à coup, la personne, elle prend un chemin, puis nous, on est là, puis on se dit, on ne comprend pas pourquoi elle prend ce chemin. Puis on est inquiet parce qu'on se dit, oh, mais là, on commence à se mordre les doigts pour elle. On se dit, mais quelle conséquence pour cette personne qui est en train de suivre un chemin qui, on se dit, mais là, il n'y a pas la sagesse de Dieu dans tout ceci. Mais voilà. Hein. Donc, Baal-Tsephon, Dieu du Nord, il veut donner une direction. Un autre nom de Baal, c'est Baal-Berith, c'est le Dieu de l'Alliance. Mais en fait, c'est des fausses alliances. Donc, c'est un sentiment où la personne, elle va se ressentir redevable envers un autre, envers un proche, envers sa famille ou envers aussi des leaders spirituels. C'est un esprit de contrôle. Hein. Achab, il avait fait alliance avec Jézabel. Et les esprits qui étaient sur cette femme ont pris vraiment complètement contrôle de la vie d'Achab. C'était Achab, c'était devenu un pantin de son épouse. C'est un esprit de contrôle qui est vraiment une puissance démoniaque. Et puis, on doit prendre toujours garde avec qui on fait alliance sur le plan spirituel. Avec quel frère, avec quelle œuvre est-ce que j'ai envie de travailler, avec quelle église je vais faire alliance. Parce que l'église, ce n'est pas simplement une association d'individus, mais elle a aussi une dimension spirituelle. Et si des esprits religieux, si Jézabel a pris autorité sur une église, Tu risques d'être confronté aussi, toi, si tu fais alliance avec cette église, tu risques d'être confronté à ces esprits-là, et peut-être qu'ils vont aussi te séduire au travers d'une alliance. Hein. Et des fois, il y a des alliances qui sont très fortes. On voit les mouvements sectaires, ça fonctionne comme ça. Les gens, ils font alliance, c'est une alliance tellement forte qu'ils se font arracher de la famille, ils se font arracher de leur époux, par exemple, si c'est une femme, ou les enfants ne retrouvent plus leurs parents, hein, si c'est des gens adultes. Il arrive des situations comme ça. Tout d'un coup, il y a un sentiment de forte alliance, et la personne, elle ne voit plus rien tout autour. Il y a plus que cette alliance qui importe. Que Dieu donc nous donne du discernement dans nos engagements afin que on ne se retrouve pas sous l'influence d'un esprit religieux. Attention également vers qui on va rechercher des conseils spirituels, car si une personne est sous l'influence de l'esprit de Jézabel, il y a de forts risques que le conseil qu'il nous donnera ne sera pas de Dieu, mais du diable. Alors, avec qui on fait alliance, vers qui on va partager, vers qui on va écouter conseil? Et puis, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle me donne un conseil rempli par le Saint-Esprit, ou bien est-ce qu'elle me donne un conseil qui vient peut-être d'ailleurs, hein? Ayant du discernement. Encore un autre nom de Baal, c'est Baal Zéboul, Dieu prince. Le prince de ce monde, on sait qui c'est Satan. Et comme on a lu avant en Éphésiens 6, 12, il est dit qu'on lutte aussi contre les princes de ce monde. Et le diable veut prendre l'apparence d'un prince et il se déguise. Et comme je l'ai déjà dit aussi, hein, le diable, il aime se déguiser en ange de lumière. Prenons donc garde pour discerner les esprits qui nous combattent, car certains de ces esprits sont très séducteurs. Et c'est un esprit qui va chercher les places d'honneur, c'est un esprit qui va chercher les places de prestige. Il a envie d'être admiré. Et il y a des gens qui vont gravir les échelons de l'Église, mais parce qu'ils sont, entre guillemets, pas que remplis de l'onction du Saint-Esprit, mais ils peuvent être sous l'onction de cet esprit-là. Et ces gens-là, ils vont rarement rester inactifs dans l'Église. Au contraire, ils auront envie de servir, et puis ils seront des grands visionnaires. Je dis pas, hein, Dieu peut utiliser aussi des gens comme ça, mais ils vont chercher à forcer le pas, ils vont être charismatiques. Ils vont être séduisants dans leurs paroles, séduisants dans leur attitude. Voilà, c'est aussi un esprit qui cherche à bien paraître. Une autre caractéristique de Baal, c'est que le père de Baal, c'était Dagon, le dieu du grain. C'était donc le dieu de la providence. Et la Bible nous dit qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. Soit tu mets ta confiance dans Mammon, c'est-à-dire l'argent, soit tu la mets dans le Seigneur. Quel maître allons-nous servir? Et pour nos besoins, à qui est-ce qu'on va se référer, à Dieu ou à l'argent? Alors on va lire Éphésiens 5, verset 5. Éphésiens 5, verset 5. Les versets 5 à 7. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. On doit le savoir, nous dit Paul, que ni les impudiques, ni les impurs, ni les, mais aussi, ni les cupides, hein, les cupides, c'est quoi? C'est les personnes qui ont l'amour de l'argent. Ni les cupides n'auront d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc, quel Dieu on choisit? Est-ce qu'on met en premier l'argent dans nos vies, ou est-ce qu'on met en premier le Seigneur? Parce que si on met en premier la cupidité, cette soif de vouloir posséder toujours plus, il y a le danger qu'on tombe dans une idolâtrie. Hein? Cupide, je relis, hein, car sachez-le bien, aucun impudique, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. La cupidité, eh ben, quelque part, Jésus, il a enseigné, hein, attention, mammon, c'est un esprit. Eh ben, la cupidité, c'est cette soif de vouloir posséder toujours plus et puis de mettre de côté les principes du royaume de Dieu par rapport à une gestion de nos finances. Eh ben, cette cupidité, il y a un esprit qui est derrière. Il est dit que c'est une idolâtrie. Ça vous amène dans une vénération d'un faux Dieu. Et aujourd'hui, je pense, si on aborde l'aspect des finances dans l'Église, on n'est pas bien loin d'avoir autant de théories que de chrétiens. Hein? J'exagère, mais à peine. Hein? Pour dire que je pense qu'en effet, on est des fois pas mal séduit par le diable dans le domaine de nos finances. Et on a peut-être des fois un peu de la peine à revenir avec des bons fondements chrétiens sur nos finances. Mais on ne veut pas être cupide, on ne veut pas avoir l'amour de l'argent, parce qu'on sait que derrière, ça va amener une idolatrie, ça va amener une puissance. Et en effet, hein, si on est accaparé par l'argent, on a rarement le Saint-Esprit qui déborde de notre coupe. Verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours. Hein. Donc, on retrouve aussi cette idée d'enseignement. Et par des vains discours, on peut être séduit. Les personnes vont nous dire « Ah ouais, mais tu vois, quand même, comme ça, comme ceci, comme cela. » Et puis, ils vont remettre en question certains principes. Et puis, pour finir, c'est la confusion dans nos têtes. « N'ayez donc aucune part avec eux. Hein, » on doit savoir se mettre à distance. Je parlais de l'alliance avant. Hein, Baal-Berith, le dieu de l'alliance. On ne doit pas faire alliance avec ces gens-là. Si c'est des gens qui marchent dans l'immoralité sexuelle ou si c'est des gens qui marchent dans l'amour de l'argent, on ne doit pas faire alliance. Et je pense même sur le plan professionnel, celui qui a, des fois on n'a pas le choix hein, dans le domaine professionnel, mais si dans quoi on s'engage, on doit aussi réfléchir sur le plan professionnel. Il faut s'éloigner de tout pasteur ou docteur ou frère qui nous enseignerait qu'il n'est pas grave de vivre dans les compromis sur le domaine de la moralité sexuelle ou la soif de posséder toujours plus sur le plan financier ou spirituel. Il y a des fois des ministères qui ont vraiment... Bon, en Suisse, on n'en a pas vraiment, mais ou peu, ou j'ai peu connaissance de ceci, mais des fois, on voit en Afrique ou bien en Amérique aussi, des ministères qui brassent vraiment beaucoup d'argent. On peut se poser la question quand même à un moment donné s'il n'y a pas de la cupidité derrière. Que Dieu nous donne du discernement. Mais quand la personne a plusieurs jets privés, j'ai quelques doutes qu'il n'y a pas de la cupidité là derrière. Hein? Bon. Alors, vous tenez encore un petit bout? Oui, ça va? On va déborder. Ouais, je ne vous ai pas annoncé, je ne voulais pas vous faire peur au début. Mais on va déborder un peu l'heure. Et puis après, on aura un moment aussi de partage et de questions et de prières, hein, aussi, si besoin. Voilà. Donc, on va retourner sur l'histoire de Jézabel dans l'Ancien Testament. Un roi 18. Un roi 18, au verset 19. Bon, on pourra même lire le verset 18 déjà. Un roi 18. C'est l'histoire en fait d'Élie, le prophète Élie, qui va confronter les puissances d'Astarté et de Baal. Hein? Alors, Élie va répondre à Achab parce que Achab dit qu'il trouble Israël. Hein? Et Élie va répondre au verset 18 « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. » Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. On voit que ces esprits-là mangeaient à la table de Jézabel. Ils recevaient leur nourriture, leur subsistance au travers de cette femme. Et aujourd'hui, il peut en être un peu la même chose. Hein. Il y a des prophètes, il y a des enseignants, ils mangent aussi à la table de Jézabel. Ils ont leur nourriture spirituelle et même physique au travers de leur connexion à cet esprit-là. Et beaucoup pensent qu'ils sont connectés au Saint-Esprit, mais en fait, ils sont connectés à un esprit religieux. Et qu'est-ce qui va suivre? Élie va ordonner à ce que tout Israël s'assemble. Il va assembler ses prophètes et puis il va mettre au défi ses prophètes. Vous connaissez l'histoire, je pense, hein, du Mont Carmel. Et il va dire, mais on va comme un concours en fait, hein, on va mettre en place un autel et puis là où le feu de Dieu descendra, ce sera le vrai Dieu. Hein, et puis vous servirez le vrai Dieu. Et on connaît l'histoire, les prophètes de Baal, d'Astarté, ils invoquent leur divinité, ils vont juste à se saigner, il n'y a rien qui passe. Et puis Élie se moque un peu d'eux, il crie plus fort, il est parti en vacances, ou je ne sais pas, hein, qu'est-ce qu'il a pu encore raconter, il est devenu sourd, ou voilà. Et puis après, Élie va faire son autel et il va même là se faire asperger d'eau, et le feu va descendre. Hein. Et c'est le feu qui va venir attester qu'Élie est bel et bien le serviteur du Seigneur et qu'il est bel et bien le prophète de Dieu. Et je pense que ça doit être la même chose pour nos moments de culte, nos moments de réunion aussi d'église. On doit rechercher le feu, on doit rechercher la présence du Saint-Esprit. Et c'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies qui vient bien attester qu'on est en train de servir le Seigneur. Dieu veut se manifester encore aujourd'hui au travers de son peuple. Et puis Dieu vient pas toujours avec le feu, mais il vient aussi avec la paix. Et la paix aussi qui est donnée dans nos cœurs, qui vient attester qu'on est bel et bien conduit par le Saint-Esprit, qu'on est bien en train d'entrer dans les choses que le Seigneur a en réserve pour nous. Et puis, une fois qu'il y aura eu cette confrontation avec tous ces prophètes, ils vont être mis à mort. Et ensuite, il y a la pluie qui va arriver. Il y a la bénédiction de Dieu qui va arriver, il y a la pluie qui va arriver sur Israël, parce qu'il y avait un temps de sécheresse avant qui a été lié aux prières d'Élie. Hein. Il y a eu un temps de 3 ans à peu près de sécheresse. Et des fois dans nos vies aussi, on peut passer par des temps de sécheresse, des temps difficiles, qui peut-être où le Seigneur va nous ramener à des choses essentielles, ou peut-être pour nous confronter aussi, ou confronter ces puissances qui peut-être... On prit une part d'autorité dans nos vies sans qu'on en soit conscient. Des fois, les temps de désert, c'est pour ça. C'est pour qu'on puisse être dépouillé de ces œuvres-là et qu'on puisse retrouver une pleine liberté en Jésus-Christ. Et puis, après ce temps de confrontation, vous connaissez aussi l'histoire, Élie va devoir fuir devant Jézabel. Hein. Donc, Jézabel, c'est vraiment aussi une puissance qui est forte. Et qui peut amener le découragement. Même un Élie a connu le découragement. Il a dû fuir, il s'est retrouvé dans une caverne à Horeb. Et donc il a connu vraiment le découragement. Et confronter cette puissance-là, ça peut aussi nous amener dans le découragement parce qu'elle est des fois tellement à l'œuvre, elle est tellement à l'œuvre autour de nous. Et des fois, on sent qu'on est dans un combat spirituel par rapport à cet esprit religieux. Alors, j'arrive gentiment à la fin. Je lirai un dernier texte. 2 Timothée. Parce que... 2 Timothée. Parce qu'en fait, Fifi, quand elle a proposé un texte ce dimanche au culte, indirectement, elle a parlé quelque chose en rapport avec ce qu'on va lire maintenant. 2 Timothée 3. Qui nous est parlé de chrétiens, mais qui ont l'apparence des chrétiens, de Timothée 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours... On rigole, je sais pourquoi. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme fut celle de ces deux hommes. Il y a des gens, ils ont l'apparence de la piété. Jésus nous a mis en garde aussi que certains, ils viendront à nous en vêtements de brebis. Les faux docteurs, ils viendront en vêtements de brebis. Mais une brebis, c'est justement l'humilité. C'est toutes les caractéristiques qu'on va chercher chez le chrétien. Puis on va se dire, oh, mais la jolie brebis qui vient à nous, comme elle est mignonne, comme son enseignement touche nos cœurs, mais c'est tellement mignon. Et puis en fait, derrière, il y a le loup. Et ça, c'est moins sympa. Donc, ils ont l'apparence de la piété. Et puis, là, on voit, ils entrent dans les maisons des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce. Le diable, il sait où est notre point faible, à notre cuirasse où il y a peut-être un petit défaut. Il sait où il peut aller attaquer. Et là, ces hommes-là, ils allaient attaquer justement des personnes qui étaient en situation de faiblesse, pris par des passions parce que peut-être justement elles avaient le désir de retrouver un mari. On peut s'imaginer ce genre de choses par rapport à ce texte. Et puis, apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà, on vient tout le temps avec des nouveaux enseignements. Il y a « Ah, mais tu connais pas le dernier truc, là, la dernière réforme !» Là, j'ai vu là sur Internet, maintenant, il y a une réforme qui s'appelle « The Last Reformation », ça veut dire « la dernière réforme ». Donc, bon, si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris, quoi. On est en train de vivre la dernière des réformes. Mais j'ai des doutes que c'est vraiment le Saint-Esprit qui agit là au milieu de cette dernière des réformes, « Last Reformation ». J'ai des doutes. De même que Jannès et Jambrès s'opposent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement et réprouvés en ce qui concerne la foi. C'est fort. C'est pas à nous de juger. Parce qu'il y a des gens, ils sont tombés sous cet esprit religieux, mais voilà, le Seigneur veut les libérer. Mais qui étaient Jannès et Jambrès? Eh bien, on s'imagine qu'en fait, c'était les magiciens qui s'opposaient à Moïse quand il y avait les signes et les prodiges qui étaient accomplis par la main de Moïse. Jannès et Jambrès, c'était ces magiciens qui étaient devant le pharaon et qui faisaient exactement la même chose. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, Fifi, indirectement, elle en a parlé, parce qu'elle a pris justement un texte dans Exode qui nous parlait d'une des plaies, et puis où il y avait ces magiciens qui essayaient de faire la même chose, mais cette fois, ils n'ont pas réussi d'ailleurs. Et puis, ils avaient dû dire, c'est bel et bien là la main de l'Éternel. Donc, il y a des gens qui sont vraiment dans la magie. Il peut y avoir même carrément des pseudo-chrétiens qui sont dans la magie, qui vont vous faire des miracles extraordinaires, et qui vont vous scotcher sur place, des prodiges. Mais on n'est jamais sûr que véritablement c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il y a une guérison que forcément cette guérison vient de Dieu. Quand je dis ça, une fois encore, je crois à la guérison. Je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Je crois que Dieu libère. Je crois que Dieu peut faire des prodiges. Mais ce n'est pas parce qu'on a une guérison que ça vient nous donner l'assurance que cet enseignant ou ce prophète est vraiment conduit pleinement par l'Esprit du Seigneur. Puis Dieu fait grâce aussi. Parce que Dieu, des fois, il voit la prière de celui qui demande il voit la foi de celui qui demande la prière. Et puis, il ne voit pas forcément que le canal est complètement bouché de celui qui va prier pour l'autre. Il y a aussi ce phénomène. Donc, Jannès et Jambrès, c'était des gens qui étaient dans la magie et qui faisaient les mêmes prodiges que Dieu faisait. Et aujourd'hui, prenons garde. Parce que Jézabel, c'est une puissance qui peut être à l'œuvre dans l'Église. Et qui, comme cette femme prenait autorité sur le roi de l'époque en Israël, cet esprit de Jézabel, en fait, va chercher à prendre la place du Saint-Esprit. Et puis, les gens vont être convaincus que c'est le Saint-Esprit qui agit, convaincus que c'est le Saint-Esprit qui guide leur vie, convaincus que c'est le Saint-Esprit qui les enseigne, mais en fait, c'est un esprit qui est religieux et qui les éloigne de la véritable adoration de Jésus-Christ. Ce que tu as, garde-le. Comme disait Jésus, ce que tu as, garde-le, garde-le. Je te donne pas d'autre fardeau, je te donne pas d'autre fardeau. Tu es en communion avec moi, ma présence, elle est là, elle te suffit aujourd'hui. pour que tu puisses continuer ta marche et par ma grâce aller de victoire en victoire. Tu as encore des choses à vivre avec moi, te dit le Seigneur. Il y a encore des portes qui vont s'ouvrir. Il y a encore des bénédictions qui vont arriver. Mais peut-être n'allons pas chercher l'onction du Saint-Esprit là où elle ne se trouve pas. Ou là où peut-être elle nous semble tellement apparente et qu'on a l'impression qu'on est tellement petit, riquiqui, rien du tout. Hein. C'est peut-être justement que le Saint-Esprit n'est pas là et que c'est un autre esprit qui est en train de faire la fête en cet endroit. Voilà. Alors j'ai terminé pour ce soir.